Soirée des 20 ans du Master Immobilier de l'Université Paris-Dauphine, jeudi 12 mai 2022 sur Radio Immo.
21h08, le soleil ne s'est pas encore couché, mais il pointe à l'horizon, justement, et nous donne une couleur un peu bucolique, propice aux rêves, avec une vue incroyable à Coppelsouffle. En plus, on est dans une situation incroyable, parce qu'on est dans le 18e arrondissement, ce qui fait qu'on a une vue sur les hauteurs de Paris qu'on connaît peu, finalement, sous cet angle-là. On fête, bien sûr, dignement. Vous l'entendez, hein, il y a le bruit de fond derrière. C'est les 20 ans du Master 246. Les 20 ans, c'est celui de l'adolescence. On entre dans l'âge adulte. Une autre page est en train de s'écrire. En tout cas, ici, autour, on a des professionnels de l'immobilier qui soutiennent cet effort d'accès à la connaissance. Parce qu'il faut rappeler d'abord que l'université est un lieu où on forme les esprits, où on crée des univers, où on crée des envies. Et il ne faut pas en douter. Demain, ce sont eux, les étudiants, qui seront aux affaires pour fabriquer la ville dont on rêve aujourd'hui. Et vu le contexte actuel, c'est pas du luxe, hein, comme dirait l'autre. Alors voilà, on va parler des soutiens fidèles du Master 246. J'ai le plaisir de l'accueillir sur le plateau. D'ailleurs, on avait parlé d'un grand projet, notamment la Tour Éclat, qui est une tour avec beaucoup d'éclat, si j'ose m'exprimer ainsi. Le directeur général adjoint de Heinz, Patrick Bosque. Comment ça va, Patrick ? Elle est avec nous sur le plateau, elle est directrice placement chez Covea, c'est Charlotte Lacoste. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Très bien.
Alors on va faire un point. On va faire un point. Alexandre, le son, j'ai pas de retour son des micros. Merci d'augmenter les éléments. On va augmenter vos micros parce qu'on voilà, on garde le bruit de fond justement pour créer de l'ambiance. Il est avec nous aussi sur le plateau. On le connaît bien, il est passé plusieurs fois sur Radio Immo. J'allais presque dire qu'il a sa place réservée sur Radio Immo. Il est un patron emblématique de l'immobilier à la tête du groupe Périal. C'est Eric Cosra qui est avec nous. Bonsoir Eric.
Bonsoir Sylvain, c'est gentil. Non, j'ai pas ma place réservée. Oui. Je viens quand on m'invite.
En tout cas, président emblématique, c'est le cas parce qu'une belle et grande entreprise comme Périal qui a su s'adapter avec le temps parce qu'elle a quelques années, hein, le groupe Périal, il y a un groupe familial au départ, qui s'est très bien développé. On est ravis de vous avoir sur le plateau. C'est important d'avoir de grands professionnels de l'immobilier, Eric, parce que justement, ces talents que vous voyez, je sais que vous êtes très attentif à la formation de vos collaborateurs et de ceux qui évoluent dans le monde de l'immobilier. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous avoir sur le plateau. Il est avec nous également, je crois que c'est la première fois, sur Radio Immo.
Tout à fait.
Alors, vous êtes Grégoire Schall, on dit Panettone ?
Panattoni, qui n'est pas...
Directeur financier des opérations chez Panattoni. Dites-nous un peu, Panattoni.
Alors, Panattoni, c'est pour le coup, là, on est très très jeune. On n'a même pas un an sur le sol français. En revanche, l'entreprise est un peu plus de bouteilles, parce que c'est une entreprise américaine qui a débuté dans les années 80 aux États-Unis et c'est un développeur logistique, d'espace logistique et industriel aux États-Unis et en France.
Et vous débarquez en France, en fait.
On débarque en France.
Voilà, il y a du boulot. Hein. il y a vraiment du boulot. C'est intéressant, vous parliez de logistique, effectivement. C'est une classe d'actifs qui a retrouvé des couleurs incroyables dans les trois dernières années. On a l'impression que c'est un peu la martingale un peu en ce moment. Alors, il faut peut-être un peu regarder ça avec un peu de prudence. Mais on comprend pourquoi Panettoni s'est installé en France, du coup. Merci d'être avec nous. Bon, on fête les 20 ans du Master 246. Tout à l'heure, je parlais avec Serge Grzybowski, le président de Dauphine. Il y a une chose que j'aime beaucoup, moi, dans la formation supérieure, c'est les contrats d'alternance. Parce qu'elles permettent de financer la scolarité de jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de financer une université privée ou une école privée. Et en même temps, ils bossent dans une entreprise, ce qui constitue une période probatoire. Je donne juste un chiffre, 57% des étudiants en cours de cursus, on est sûr qu'ils seront embauchés au terme de leur cursus. Quand ils arrivent à la fin de leur cursus, on est à 97% d'employabilité et d'emploi. Totale réussite. Je vais commencer par vous, Eric, parce que je sais que vous y êtes très attentif. C'est important d'avoir ce type de soutien, un lieu où on forme les talents, qui ne sont pas des talents d'élite sociale ou de conditions sociales, mais des talents tout court ou de l'intelligence tout court.
Bien sûr que c'est important parce que c'est aussi préparer les générations futures, c'est le futur de notre économie, c'est le futur de notre pays, et ce sont les futures élites également. Et je reviens sur l'alternance, Moi, j'ai toujours été un pro de l'alternance et j'en ai fait moi-même. J'ai commencé comme ça mes études. Alors moi, j'étais à côté, j'étais liégé, donc j'étais pas très loin. Et à l'époque, c'était assez regardé un peu de travers, mais l'alternance permet le pragmatisme et donc la vie dans l'entreprise et donc permet d'acquérir un petit peu les codes de l'entreprise et de travailler de manière pratique, alors que l'enseignement français avait une réputation d'être très théorique. Ça apporte beaucoup de richesse et cette va-et-vient entre le savoir et la pratique immergée au milieu des collaborateurs, c'est quelque chose qui est très précieux et qui permet également à l'étudiant de s'intégrer beaucoup plus rapidement.
C'est ce que vous faites chez Périal. Hein, vous...
C'est également exactement ce qu'on fait chez Périal et on aime bien avoir des étudiants et de pouvoir les intégrer, qu'ils soient alternance ou stagiaires. Mais on a effectivement cette politique-là qui est précieuse.
Charlotte, effectivement, c'est Charlotte Lacoste, vous êtes directrice placement chez Covéa. Covéa, c'est une grande entreprise, bien évidemment, mais les talents, c'est un peu comme une pépinière. On forme ces esprits qui évoluent et quelque part, ils arrivent un petit peu, je veux dire, frais. Et cette alternance leur permet finalement de peaufiner leur projet professionnel. Et je vais même aller plus loin, c'est leur projet de vie professionnelle. Quand vous voyez justement des cursus qui ont seulement 20 ans, 20 ans c'était hier, est-ce que ça vous rassure de trouver ces lieux d'excellence où on sait qu'on aura des talents qui demain seront aux affaires pour fabriquer la vie dont on rêve tous aujourd'hui?
Alors oui, évidemment, et à deux titres, parce que moi je suis une ancienne du master, donc j'ai fait le master en formation continue en 2004, passé d'avocate à banque d'affaires et investissement immobilier. Et depuis, j'ai toujours recruté des étudiants dans ce master. Donc, je suis assez attachée au master 246. Je crois que chez Covéa, on a 600 alternants.
Ah oui.
Quand le Covid a éclaté, on a pris une option assez importante. On s'est dit qu'il faut absolument que les jeunes qui passent, qui vivent la pandémie, on leur trouve un moyen de s'exprimer, un moyen de sortir parce que le monde du travail était un peu bouché. Et donc, on a lancé un programme d'alternance hyper fort. Et dans ma direction, on est 80. Et je pense qu'on a au moins 8 alternants. Donc, on a vraiment joué le jeu chez Covéa de comment on peut offrir à des jeunes des perspectives, comment les intégrer dans l'entreprise. Et j'avoue que le Master 246, c'est quand même la formation à l'immobilier. Alors, on est plutôt anciens autour de la table. Ça n'existait pas. Donc, on est des générations où on a fait de l'immobilier parfois par hasard. C'est quand même une formation qui est extrêmement complète. Moi, j'en ai eu dans toutes mes boîtes. Ça fait 3 ans que je suis à la direction de Covéa Immobilier. Mais avant, je travaillais pour Fonds Souverain du Qatar, j'avais des étudiants du master. Avant, j'étais chez Allianz, j'avais des étudiants du master. Et j'ai toujours eu des profils de grande qualité que je revois ce soir avec beaucoup de plaisir.
Des profils qui, d'ailleurs, pour certains, sont devenus tuteurs. Entreprise d'accueil, et donc finalement c'est une chaîne qui, voilà, c'est une boucle qui se fait. Patrick, professionnel de l'immobilier et un grand expert du secteur tertiaire, on a fait quelques tables rondes ensemble. Est-ce que ça rassure le professionnel que vous êtes? Vous avez, on va dire, une expérience dans le métier, une certaine expérience, quelques années d'expérience. Quand on voit ces jeunes, très affûtés, avec une prise de conscience qui est très différente de celle dans laquelle nous avons été formés à l'époque, avec qui sont tous qu'on appelle des digitaux natifs. Ils sont nés avec les outils. Et en même temps, on voit que ces jeunes-là ont une vraie quête de sens qui n'était pas forcément la même que celle que nous avions quand on avait leur âge, 20 ans.
Disons que les jeunes d'aujourd'hui, enfin, moi je trouve qu'ils sont assez formidables en fait. Parce que bon, il y a toujours les fameuses phrases, c'était mieux avant, c'était comme si avant, etc. Mais d'abord, la chance qu'on a quand on est enseignant dans un master comme celui-ci, c'est que c'est transmettre, c'est apprendre. Et moi, je pense que c'est quelque chose que chacun devrait essayer de faire s'il a l'opportunité de le faire. La deuxième chose, c'est que effectivement, l'alternance, c'est une opportunité pour les étudiants qui est formidable parce que c'est un véritable pont, finalement, entre l'entreprise et l'université. Parce que vous avez raison, c'est... Souvent, on se rend compte que quand on sort de l'université, si on n'a pas baigné un peu dans le monde de l'entreprise, on a une certaine naïveté par rapport aux événements. Et le rôle qu'on a quand on reçoit des alternants dans nos entreprises, c'est justement, bon d'abord c'est une responsabilité parce qu'il faut passer du temps avec eux, il faut leur donner des choses concrètes à faire. Et le métier qu'on fait, enfin moi je parle de la promotion immobilière parce que je suis promoteur pur beurre, on va dire ça comme ça, on a la chance de toucher un peu à tous les métiers et on a la chance d'avoir une activité dans plusieurs domaines. Donc on fait de la promotion, il faut à la fois bien sûr être technique, il faut être relationnel, il faut avoir des notions d'architecture, enfin c'est ça qu'il faut en prendre un peu à tous nos étudiants. Et les jeunes d'aujourd'hui, moi je me le rends compte quand on essaie de concevoir des immeubles, c'est que les attentes des jeunes d'aujourd'hui ne sont pas celles que, enfin, du moins de ma génération, on avait. Moi je me souviens encore, mon père me disait « il faut que tu bosses, faut que tu bosses, faut que tu bosses ». Bon alors bien sûr j'ai bossé, mais aujourd'hui les jeunes travaillent, mais ils veulent aussi une qualité de vie à côté de leur vie professionnelle. Et ça c'est très important et ça a un impact direct sur le management d'une part et d'autre part sur la conception des bureaux d'autre part. Donc on y reviendra peut-être tout à l'heure.
On vit, Grégoire, une période de transition anthropologique sans précédent qui rebat les cartes à la fois des villes, notamment de cette hypermétropolisation avec des territoires intermédiaires dont on n'aurait pas pensé que leur démographie retrouverait des couleurs. Hein. Moi qui vais dans toutes les villes de France chaque semaine et qui rencontre des maires, je trouve qu'il y a des belles alternatives. Et c'est vrai, cette quête de sens, cette quête de projet que rappelait Pratique, c'est vrai que moi aussi je fais partie de cette génération. On me demandait qu'une seule chose, c'était de travailler. De travailler. Et aujourd'hui, le travail est un des piliers finalement des projets de vie professionnels de cette jeunesse, justement. Comment vous l'interprétez vous, aujourd'hui, avec ces nouveaux, on va dire, paradigmes qui ont modifié notre façon de travailler? Alors je ne dis pas que le Covid, je ne suis pas naïf à ce point-là, a supprimé toutes les mauvaises habitudes que nous avions avant, pas rêvé, mais quelque part, ça a été une formidable leçon d'humilité. Quel est votre avis, Paul?
Alors nous, chez Panattoni, pour le coup, on est une société vraiment jeune. On a embrassé, en fait, on est arrivé presque post-Covid sur le sol français.
Ah, mais oui, vous êtes arrivé en quelle année? En 2020?
En 2021. Septembre 2021.
Ah ouais.
Donc c'est très récent. Et bien sûr, on a intégré tout ce qu'ont fait les grands groupes autour de nous et ce que nous demandaient aussi les plus jeunes, c'est-à-dire être flexible, apporter certaines journées qui peuvent être travaillées à la maison ou à distance.
Que vous avez une particularité, vous travaillez dans l'univers logistique, hein, pour rappeler ça.
Voilà, tout à fait. Et on a aussi ouvert récemment un bureau à Lyon pour couvrir bien sûr le territoire pour notre activité. Et on voit qu'en ouvrant à Lyon, on a aussi une demande des personnes. Alors on n'a pas un énorme staff aujourd'hui, mais de jeunes qui veulent justement se réinstaller à Lyon et être analyste de la personne qui dirige notre bureau de Lyon. On n'a pas du tout de problème pour recruter de ce côté-là, parce que justement, pouvoir sortir justement juste de la bulle parisienne, c'est très bien, avoir cette flexibilité au bureau aussi. Donc on accompagne le mouvement, on s'étend sur le territoire et ça convient à mon avis assez bien à ces nouvelles générations.
Les actifs immobiliers, Eric, ont beaucoup évolué dans la vision, j'allais dire, qui intègre aujourd'hui des paramètres, des ratios, je vais utiliser un terme un peu pompeux, mais des ratios extra-financiers qu'on ne voyait pas avant. Bon, je parle bien sûr des normes ESG, mais aussi de cette vision, je vois par exemple la conversion du portefeuille obligataire de Gecina en green bond, en obligation verte, donc qui répond à finalement un règlement taxonomique à l'échelle de l'Europe. On a l'impression que finalement le capitalisme, entre guillemets, est en train de se verdir, de trouver une dimension sociologique et de transition environnementale où il n'y a plus de débat. C'est-à-dire qu'en fait, pour gagner des projets, pour gagner des appels d'offres, pour aller sur des territoires d'aménagement, je le vois avec les collectivités locales ou les régions, est-ce que c'est un signal qui est en train de modifier finalement la vision de l'actif immobilier, qui lui donne finalement des paramètres qu'on ne voyait pas arriver, sociologiques, peut-être un peu philosophiques, anthropologiques? C'est une réalité ou c'est un langage marketing, ça?
Non, je crois que c'est plus qu'une réalité. Alors d'abord le capitalisme se réinvente, et c'est sa grande force et sa grande créativité. Et qu'effectivement, il faut qu'il trouve des nouveaux critères pour pouvoir se développer, créer. Et il y a des enjeux au-delà de l'immobilier qui sont des enjeux effectivement de préservation de la planète, de comment s'engager à transmettre aux générations futures une planète qui soit vivable. Donc là, on est également dans la transmission. et que chez Périal, on est évidemment très engagé dans les critères ESG, donc environnementaux, sociétaux et la gouvernance. Et moi, ma conviction, c'est qu'on revient aux fondamentaux de l'immobilier aussi. C'est que l'immobilier, on en a fait avec succès tous un produit financier depuis 20 ans, ce qui était nécessaire, ce qui est un produit qui doit se comparer aux autres placements et sur lequel, lorsqu'il y a des investissements, il faut qu'il y ait des retours sur investissement. Et le fait d'intégrer à la fois un immobilier qui est plus inclusif au sein de la cité, ou qui est plus inclusif et qui prend plus en compte les besoins de la société, je pense que c'est revenir à la fonction initiale de l'immobilier, qui est le toit, en fait, et qui est de protéger et qui est d'héberger.
Un besoin de première nécessité.
Un besoin de première nécessité, et on le voit bien notamment avec ce qu'on a connu et la situation compliquée dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire que la valeur refuge a un sens, que accompagner des hébergements sous gestion avec des résidences seniors ou des résidences étudiants a un sens également.
Bien sûr.
Le bureau a un sens aussi, et le bureau n'est pas mort, il se renouvelle aussi, donc ça fait partie également des changements des actifs. Et l'immobilier s'est toujours adapté aux différents besoins à la fois des acteurs économiques, qu'ils soient entreprises ou particuliers. Et ce qu'on connaît dans le bureau maintenant, tout le monde a l'air de trouver ça absolument exceptionnel, mais le bureau s'est toujours adapté, le bureau a toujours été obsolète, c'est toujours, il y a toujours eu une adaptation. Alors ça a été les moyens de communication, les réseaux de communication également. Maintenant, c'est effectivement les changements d'habitude de travailler. Et,
chez Périal, est-ce que vous avez une vision sur toutes les classes d'actifs ou vous avez une dominante
Alors chez Périal, on a une dominante très tertiaire en fait.
Très tertiaire.
On va plus loin que le... Alors on est très spécialiste du bureau, mais on va plus loin notamment avec tout ce qui est hébergement sous gestion. On est très peu dans le résidentiel et pas dans la partie, entrepôt logistique, qui est un marché effectivement un petit peu à part. Mais notre gros sujet, c'est à la fois une diversification dans d'autres classes d'actifs et à la fois comment transformer cette classe d'actifs prépondérante en immobilier d'entreprise qui est le bureau. Et c'est des échanges passionnants parce que c'est...
Quand on parle de réversibilité d'immobilier de bureau obsolète qui pourrait devenir des friches foncières, clairement, hein, pour du logement, parce qu'on est dans un zéro artificialisation nette, donc il n'y a pas le choix, il faut loger les Français. Parce qu'on ne pourra plus s'étaler tel qu'on l'a imaginé. Est-ce que vous y croyez, vous ?
Moi, j'y crois beaucoup parce que, d'abord, c'est une manière d'être beaucoup plus économe d'être plus vertueux, hein, plutôt que de détruire et de reconstruire ou de créer de nouveau. On est quand même... on a un territoire qui est assez large, mais on voit que les grandes métropoles sont denses. Et donc, c'est nécessaire de transformer. Ce qui est fantastique, c'est de voir que le progrès technique permet... ce qui était compliqué il y a 20 ans, la transformation du bureau en logement, on la connaît depuis longtemps, ça a été récurrent, les problèmes récurrents de logement, et de voir que maintenant c'est quand même plus faisable avec des techniques qui ont évolué qu'il y a quelques années. Et donc ça fait partie du progrès technique, et comment également être un peu moins figé avec notamment des quartiers tout tertiaires ou des quartiers tout résidentiels, et de voir comment on essaie d'introduire un peu plus de mixité. Là aussi, à un moment, il y a eu des tentatives en France qui ont plutôt échoué sur cette mixité. Et on voit qu'on est en train de réinventer, de
trouver
revenir,
le modèle.
Voilà, et qui fait toute la dynamique de notre secteur d'ailleurs. Et tout le côté passionnant de notre secteur, c'est justement cette réinvention permanente et avec un secteur de l'immobilier qui était vraiment au cœur de nos transformations sociétales. Et les mutations qu'on connaît, elles sont importantes, elles peuvent être anxiogènes, mais de voir combien à chaque fois l'immobilier est au cœur de ce sujet-là. Et qu'il y a un immobilier maintenant pour chaque tranche de vie de chaque citoyen. On commence par la crèche et on finit par l'EHPAD. Donc il y a ces besoins-là et c'est ce qui fait effectivement la passion de notre secteur.
Permettez-moi, Eric, on se connaît déjà depuis un moment, J'espère moi ne pas finir dans un EHPAD. Je veux bien démarrer à la crèche, mais je ne veux pas aller.
Moi aussi. La crèche est finie, mais en tout cas, effectivement, l'EHPAD.
Quoique, quelque part, l'EHPAD, c'est un peu la crèche versus...
On s'intéressera peut-être au cimetière aussi un jour.
Et pourquoi pas.
Oui, exactement.
Et pourquoi pas. Charlotte Covea, c'est un gros investisseur, bien évidemment, sur beaucoup de classes d'actifs, avec quand même des dominantes sur le logement, hein, beaucoup.
Très bureau, très logement. On a la particularité d'avoir un patrimoine presque exclusivement parisien. Donc on a presque 2 milliards de logements dans Paris. Ce qui est, je pense, on est un des rares à pouvoir afficher de tels chiffres. Donc nous, on fait vraiment les deux bureaux logements. On pense que l'habitabilité, c'est vraiment la question qu'on doit se poser et pour le logement et pour le bureau. La difficulté du logement locatif parisien, c'est comment on peut offrir une meilleure expérience à des locataires résidentiels dans Paris pour l'aménagement de la mobilité, peut-être des espaces qui pourraient louer en plus pour télétravailler. Quand on est dans un régime loi de 89, hyper réglementé, plafonné, donc on a beaucoup d'envie de développer l'expérience des habitants, se dire quand on est habitant, Covea, ça veut dire quoi, et avec une certaine limitation de ce qu'on peut faire. Moi, je crois beaucoup. Là, on a l'urgence climatique qui s'est heurtée à la pandémie, qui font qu'on est dans un métier en pleine transformation et mutation, ce que je trouve extraordinaire. Il y a plein de possibles qui sont en train de s'ouvrir devant nous. Et il y a vraiment quelque chose à faire sur le résidentiel. Donc nous, on y travaille beaucoup, que ce soit, donc on a monté des grilles de biodiversité. La biodiversité chez Covea, c'est en fait, c'est renaturer les lieux de vie, des services, de la mobilité.
Et, sur les valeurs locatives, vous arrivez à maintenir un équilibre qui vous permet de financer toutes ces opérations?
On essaye de trouver des astuces, notamment...
Parce que vous rappeliez le cadre législatif, c'est vrai que c'est une vraie... Faut le dire, hein, une vraie inflation normative en France, hein, avec un poids qui n'est pas prêt de s'améliorer, il faut quand même le rappeler. Et parfois même des normes qui s'opposent les unes aux autres.
Exactement.
On a basculé de la RT 2012, on a remplacé le T par le E avec la RE 2020. En 2022, on commence à geler les loyers, vous savez, sur les 7 lettres énergétiques F et G. On a 2028, 2025 et 2034 pour les lettres FPG, et on est déjà sur la lettre E dans le projet de gouvernement. Pas facile, hein.
Nous, on intègre... c'est vrai que les institutionnels de l'immobilier sont très au fait du décret tertiaire.
Eh oui.
Mais quand on a un patrimoine avec autant de résidentiels, nous, la loi climat et le DPE nouvelle génération, ça nous impacte directement et on se demande ce qu'on va faire.
Parce que c'est un chantier mais colossal.
C'est colossal.
On parle de 4 800 000 logements classés F et G. Soit un tiers du parc locatif privé, c'est quand même c'est pas rien.
Ouais, avec des
la loyers... question, c'est comment on loge les Français, Charlotte? Quand on voit qu'on a des autorisations d'urbanisme qui fondent, juste je vous donne un chiffre parce que quand même, c'est l'occasion de pousser un petit coup de gueule. 391 000 autorisations d'urbanisme en 2021, c'est le même chiffre qu'il y avait en 1982. Sauf qu'en 1982, il y avait 54 millions d'habitants, 54 millions, et qu'il y en a 13 millions supplémentaires aujourd'hui.
Voilà. On a un vrai déficit, on a une vraie problématique. La transformation des bureaux, notamment en Ile-de-France, sur les bureaux obsolètes en logement, moi je pense que c'est une vraie option.
Ça marche.
Et ça peut marcher. Il y a quand même pas mal d'immeubles qui sont compatibles. Après, il y a une résistance des villes et des mairies. Et peut-être Patrick est promoteur pour en parler plus, mais il y a une résistance des maires qui est colossale. Moi, je crois beaucoup à la mixité. Aujourd'hui, je pense qu'il y a moins de frontières entre où j'habite, où je vis, où je fais du sport. Les gens, et notamment les jeunes générations, ils ont envie de vouloir faire tout partout. Et ce tout partout, il faut qu'on l'organise. Et je ne crois pas dans des quartiers très bureaux ou très résidentiels. Il faut une vie qui intègre les deux. Mais on a encore beaucoup de maires de première couronne qui veulent pas et qui résistent à cette transformation en logement.
C'est vrai que le rôle de l'élu est primordial. Dieu sait que Patrick connaît le sujet puisque c'est un peu la dent creuse. Hein, bon, quand j'ai parlé des autorisations d'urbanisme, ça vous parle, Patrick, forcément. On a quand même aujourd'hui pour le logement neuf ou pour la construction en France un vrai sujet.
Oui, on a un sujet. Et enfin, je rebondis un peu sur ce que disait Charlotte. C'est bon, aujourd'hui, il y a une volonté manifeste politique de transformer des bureaux en logements. Et finalement, il y a trois étapes à franchir pour ça. D'abord, quand on veut transformer un immeuble de bureau en logement, il faut déjà voir si sa configuration intrinsèquement correspond à ça. Parce que tous les immeubles de bureaux, ça ne se décrète pas transformer des bureaux en logement. Oui. Il faut qu'ils soient transformables intrinsèquement en logement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'économiquement, il faut que ça soit viable aussi. Donc ça, on ne transforme pas n'importe quel immeuble de bureau en logement. Donc il y a des secteurs de marché qui y répondent et pas d'autres. Et le troisième point, enfin Charlotte le disait très bien, c'est que quand vous allez voir un maire en lui disant voilà, il y a 5000 mètres carrés de bureaux existants que j'aimerais transformer en logement, bon, à tort ou raison, ils disent il va détruire des emplois. À tort ou raison, hein, je ne sais pas. Mais en général, à tort, parce que si on veut transformer des bureaux en logement, c'est que l'immeuble de bureau ne correspond plus aux critères d'aujourd'hui. Et surtout, il se dit, créer des logements en plus, je vais être obligé de créer des équipements publics. Donc, on a trois challenges à surmonter à chaque fois qu'on veut transformer des bureaux en logement. Donc, ça ne se décrète pas, ça. C'est pas évident. Donc, ce n'est pas encore, même si politiquement, il y a une forte insistance pour le faire, concrètement, ce n'est pas si simple que ça sur le terrain.
Grégoire, est-ce que, alors avec l'intégration de Panattoni en France et la découverte finalement de cette entreprise américaine qui arrive dans un pays, est-ce que vos homologues américains là-bas, au siège, voient le marché français un peu de façon particulière? Parce que faut quand même comparer, le poids de la législation n'est pas le même. La liberté d'entreprendre n'est pas la même. Comment vous voyez, vous qui avez cette vision à la fois outre-Atlantique et française?
Bon, il y a un exemple, Sylvain, assez parlant, c'est l'exemple d'Amazon, qui a quand même pas mal de mal à s'implanter sur le sol français. Ils ont essayé de développer pas mal de mètres carrés pour distribuer leurs marchandises. Et effectivement, il y a une grosse résistance. Pas forcément des maires, mais en tout cas de la population, et donc les maires ne délivreraient pas les permis. Bon, ça c'est plus lié peut-être à cette société. Mais
sinon... je vais même aller plus loin, il y a des projets Amazon dans lesquels les permis avaient été purgés, instruits. Quand il y a eu le changement des municipales, ils ont été retoqués par la nouvelle mairie. Je l'ai vu à Annecy. Quand je suis arrivé devant le maire d'Annecy, il n'y a pas de secret, c'est public, j'ai fait l'émission. Avec le film Le Confrère du Figaro, on fait une émission qui s'appelle Les Clés de la Ville. Quand j'ai demandé à François Astorg, lorsqu'il est arrivé à la mairie d'Annecy, combien il y avait de permis qui étaient instruits à la mairie, il y en avait 57. Je lui ai demandé combien de permis vous avez retoqué, il m'a répondu 54. Il ne s'est pas fait des amis parmi les promoteurs. C'est étonnant quand même.
Ça, c'est un premier exemple. Bon, le deuxième exemple, en France, en fait, on a une spécificité. On a un double permis, en tout cas pour tout ce qui est entreposage. Il y a le permis de construire, mais il y a aussi le permis ICPE. Donc c'est un permis d'impact sur l'environnement. On doit le gérer avec la préfecture, donc une autre partie. Il y a la municipalité avec le permis de construire et le permis ICPE avec la préfecture. Donc il faut gérer en fait ces deux permis de front. Il y a des recours qui vont exister sur ces deux permis. Donc effectivement, quand on parle de ça aux Américains, ça les refroidit pas, ils savent faire, mais c'est une des spécificités effectivement françaises.
C'est vrai que, pourquoi faire simple hein, chez nous, c'est extraordinaire. Mais quelque part, la norme, en même temps, paradoxalement, a protégé le système français, comme le système bancaire, par exemple. Donc, il y a aussi des avantages. Est-ce que cette classe d'actifs, pour clôturer bien sur ce sujet, qui fait rêver actuellement tous les investisseurs, il faut le savoir qu'aujourd'hui, il y a un mouvement des investisseurs vers la logistique qui est sans précédent. D'ailleurs, le taux de rentabilité se rapproche assez vite, assez bien des classes d'actifs bureaux et tertiaires, donc ça devient bankable. Bon, on comprend l'opportunité des Américains de vouloir venir effectivement sur ces sujets. Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir pour cette classe d'actifs qui va se généraliser? Je m'explique. Il y a une entreprise que vous connaissez certainement qui s'appelle Getir, une start-up turque incroyable qui a inventé un concept où on vous livre les produits 80 références, lait, beurre, ce que vous voulez, en moins de 10 minutes. Le fondateur, d'ailleurs, c'est celui qui avait créé un système en Turquie de taxi, je ne me rappelle plus le nom, vous aviez un taxi en moins de 3 minutes. Voilà. C'est des supports logistiques qui sont très, avec des empattements plus faibles, 200 mètres carrés, 300 mètres carrés. C'est un avenir, ça, pour la logistique urbaine, sur le dernier kilomètre qui nécessite un maillage.
Absolument. Moi, je pense que notre conviction, c'est qu'il y a une vraie lame de fond, il y a une autre façon de consommer et d'acheminer les produits vers le consommateur en France et dans le monde, à travers le monde. La France n'est pas le seul pays touché, bien sûr. C'est une nouvelle façon de consommer. Et il y a un déplacement, en fait, de tous ces produits vers, avant qu'ils étaient dans les magasins en pied d'immeuble, etc. Un déplacement vers les entrepôts et vers un maillage d'entrepôts autour des pôles de consommation. Alors après, ça crée plusieurs types d'entrepôts. Il y a ce qu'on appelle les distribution centers, des fulfillment centers. Donc vous avez plusieurs catégories d'entrepôts avec, pour faire simple, un gros bébé qui va tout stocker et puis un maillage tout autour de la cité pour aller livrer en dizaines de minutes ou en quelques heures au client final. Donc oui, c'est un... On a quand même...
Justement, je vais vous redonner la parole, mais les investisseurs que vous êtes, Eric, et chez Covea, ça vous tente la logistique, là, du coup, non? Vous dites qu'il y a un relais de croissance pour Périal. Oula, c'est...
Ça, c'est le... Tombe de sa chaise.
J'ai perdu quelques centimètres. Ouais, parlons de logistique.
Attendez,
c'est comme les taux. C'est comme les taux. Je suis les taux des
logistiques. Souriez, vous êtes filmé. Hein.
Non, c'est un marché qu'on a toujours considéré comme étant assez particulier, donc dans lequel on n'a pas osé aller, mais on peut reconnaître effectivement qu'il y a des changements structurels qui font que la logistique a acquis un poids beaucoup plus important dans les nouveaux usages de l'économie. Maintenant, ça reste un immobilier assez spécifique, qui
demande un savoir-faire aussi particulier.
Un savoir-faire technique que l'on ne peut pas, effectivement. On ne peut pas être un touriste ou un opportuniste sur ce sujet-là. Je pense qu'il faut être vraiment un spécialiste.
Patrick.
Ce que disait Grégoire, c'est que effectivement, c'est ce maillage urbain de petits lieux de stockage dans les pieds d'immeubles, ça ne plaît pas du tout aux maires à UX.
Ouais.
Parce que en fait, ils se rendent compte que ça crée des nuisances pour les riverains. Et c'est, moi, j'ai pas mal discuté avec pas mal de maires là-dessus, et ils sont tous assez réticents à autoriser, et s'ils peuvent autoriser, parce que parfois ils sont mis dans le conflit. Justement des petits lieux de stockage comme ça avec des motos qui vont et qui viennent jusqu'à tard dans la nuit et des gens qui discutent en bas, etc. etc. Donc il y a beaucoup de riverains qui se plaignent dessus. Donc c'est pas si simple que ça d'implanter des petits lieux de stockage comme ça en zone urbaine.
Je trouve ça extrêmement intéressant qu'on prenne le temps comme ça le soir sur un rooftop. Ça fait très, marqué de pouvoir voir
très
ce
chic.
Genre de conversation. On va se quitter. Juste un mot pour qualifier les 20 ans de ce master, porteur d'espérance, porteur d'image d'une jeunesse dont on sait qu'elle sera aux affaires avec des projets différents. On l'espère toujours mieux que la génération précédente. Vous diriez quoi, Grégoire?
Sur, pardon, je vous ai pas
suivi. Un adjectif qui qualifierait cette génération du master.
Moi, je trouve qu'ils sont super flexibles.
Ah, c'est bien ça. Ouais. Flexible. Intéressant. Patrick, vous diriez quoi?
Je dirais simplement brillant. Parce que j'ai en face de moi des étudiantes et des étudiants chaque année. Brillants, passionnés, je dirais... d'une façon assez régulière.
Moi, je dirais que parfois, souvent, je les trouve plus matures que ma propre génération.
Ah oui, oui.
Quand je me remémore mon œuvre.
Et très à l'aise.
C'est très, ouais.
Ce qui est curieux, c'est que, moi, je me souviens quand le professeur, j'ai fait Dauphine, hein, quand le professeur entrait, on voyait le professeur, on se taisait, etc. Là, il se taise aussi, il y a un respect, mais il y a une aisance vis-à-vis du professeur que je trouve assez incroyable. Ce qui est plutôt bien, d'ailleurs. Hein.
D'ailleurs, il les challenge, maintenant. Ça y est.
Oui.
Parce que faut pas oublier qu'Internet est passé par là,
oui,
et la connaissance.
Vrai.
C'est invité chez les gens. Eric, vous diriez quoi pour un adjectif qui qualifierait cette formation?
Je dirais communicant. Ils sont nés dans un siècle de communication. Et puis, moi, j'apprends à les connaître parce que je suis le parrain de la future promotion.
Oui, vous êtes le parrain de la promotion 2022-2023.
Tout à fait, voilà.
Vous avez un enjeu important.
Donc, je vais les connaître, oui.
C'est intéressant parce qu'elle a été bouclée ce matin, je crois. Hein.
Oui,
ça a été fait ce matin.
Tout à fait.
Et je suis content parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans les cursus. Il n'y en a pas assez.
Et là, il y a une majorité de femmes, là.
Et Eric, on peut le dire, dans l'immobilier, on manque de femmes dirigeantes. Je ne dis pas qu'il faut instaurer des quotas ou instaurer forcément une parité obligatoire. Mais quand même, hein,
elles vont arriver.
Mais ça progresse.
Elles vont venir.
Oui, c'est important. Vous êtes d'accord avec moi, Charlotte?
Mais je ne peux être que d'accord. Ah. Mais en même temps, je suis sûr qu'elles vont venir.
Voilà. Alors, quel adjectif vous choisiriez pour justement qualifier ce cursus d'excellence?
J'ai pas d'adjectif, mais je pense que ça donne beaucoup d'espoir. Parce qu'on est vraiment dans une transformation de nos sociétés et l'habitat au sens général, c'est-à-dire l'habitat pour travailler ou l'habitat pour se loger. Et ensuite, il ne faut pas oublier évidemment la logistique et tout ça. Mais en tout cas, cette génération-là, elle va porter l'immobilier de demain. Et l'immobilier, c'est un des pans les plus importants de nos vies à tous, que ce soit pour vivre ou pour travailler, sans compter l'impact carbone de cet actif qui est colossal. Et donc, je pense que pour moi, c'est l'avenir.
Et bien moi, si vous me permettez, j'utiliserai un mot, c'est le mot conviction. Porteur d'un immobilier de conviction, je pense que c'est un bon signal envoyé. Merci Eric Cosra, patron de Périole. Vous savez que vous êtes toujours le bienvenu chez nous à Radio Immo. Merci aussi d'accepter toujours nos invitations avec beaucoup de gentillesse. Merci Charlotte Lacoste, directrice placement chez Covéa. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Viendrez nous voir dans nos studios parisiens. Avec grand plaisir. Voilà, c'est toujours un plaisir également de recevoir Patrick Bosque sur le plateau pour Heinz. Toujours un plaisir de voir les professionnels s'exprimer. C'est rassurant. Et une première sur Radio Immo, Grégoire Chal, directeur financier des opérations pour Panattoni, spécialisé en logistique. On va venir nous parler un peu plus de votre entreprise, hein, qu'on vous donne un peu une chambre d'écho à Radio Immo. On continue nos émissions ici au Master 246 pour fêter les 20 ans. A tout de suite.
Soirée des 20 ans du Master Immobilier de l'Université Paris-Dauphine, jeudi 12 mai 2022 sur Radio Immo.